Bonjour et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Géraldine Jourdain, une Québécoise expatriée au Japon. J'ai adoré cette entrevue qui nous a fait découvrir les dessous de la culture japonaise sans s'en tenir à la perspective touristique, alors que pourtant, notre invitée est aussi guide au Japon. Donc, nous discutons de la diversité culturelle et de l'intégration de l'expat québécois autant à l'étranger que chez nous, au Québec. Pour Géraldine, tout a commencé il y a plus de 20 ans lors d'un périple en Europe suivi d'une offre très spéciale de la part de son papa. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on reçoit Géraldine Jourdain, une Québécoise expatriée au Japon. Bienvenue Géraldine, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui.
Mais merci, je suis super contente de te parler aussi.
Puis là, ben écoute, au Japon, c'est la première fois qu'on a une invitée qui se trouve au Japon. Je trouve ça vraiment génial. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre ton histoire. Donc peut-être que déjà, au cœur du sujet, tu pourrais nous raconter qu'est-ce que semé pour toi l'idée de devenir expat. Comment ça s'est créé, cette expérience-là pour toi?
Bien, je vais essayer de te résumer ça un peu. En fait, moi, ça a commencé il y a à peu près 22 ans, en fait, quand j'avais 18 ans, là, je vais avoir 41 ans, donc ça fait à peu près 22 ans, je faisais du vélo de montagne de compétition et j'ai eu des problèmes à mes genoux. Et mon entraîneur m'a dit que je devais arrêter de m'entraîner. Puis cet été-là, qui a suivi cette super déclaration de mon entraîneur, mon père... Mes parents ont décidé de nous amener en Europe. On est parti en voyage, faire le tour de l'Europe pour la Coupe du monde, en fait, en 98. Puis mon père, voyant que j'étais hyper déprimée, tout ça, m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire, ma fille, pour te faire plaisir, je sais pas. »
Te redonner le sourire.
un peu, ouais, dans ce genre-là. Puis là, moi, je lui ai dit « Ben, j'aimerais ça voyager, tu sais. » Puis il m'a dit, ben je te paye un voyage où tu veux aller. Et moi, parce que j'avais eu un truc un petit peu ésotérique qui m'était arrivé quelques années auparavant avec le Tibet, j'ai dit à mon père, moi, j'ai envie d'aller au Tibet. Comme j'ai une sœur plus vieille, mon père a dit, ben à ma sœur, ben toi, où tu veux aller? Ma sœur a dit, moi, je veux voir la Grande Muraille de Chine. Et mon père a dit, bon, OK. On va vous organiser un voyage. Donc, on est allé voir une agence et tout ça. Et comme on était encore un peu jeune, on a un petit peu profité de notre père. On a étiré la sauce. Au lieu de faire comme, on va au Tibet, puis on va en Chine voir la Grande Muraille, on a fait comme, ben on peut voyager en Asie? Fait que finalement, on est parti presque 9 mois.
Wow!
Ouais, sac à dos.
OK.
Oui, en 99, on est parti janvier 99, Montréal, Bangkok. De Bangkok, on a fait 9 mois overland, comme on dit. On a traversé, on est allé en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. On a fait toute la Chine, on a fait tout le Tibet jusqu'au Népal pendant 9 mois, tout ça. Puis moi, je suis tombée en amour avec l'Asie, puis j'ai rencontré plein de Japonais sur ma route. Puis là, j'ai fait, ces gens-là sont intéressants, sont un petit peu bizarres. J'ai envie d'aller explorer le Japon, tout ça. Puis j'avais toujours voulu aller vivre ailleurs, tu sais, comme faire une année d'échange, tout ça. Puis j'avais essayé de faire une année au BC parce que ma famille connaissait des gens, tout ça. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, j'ai dit, bon, je vais faire un an de cégep, puis après ça, je m'en vais. Fait que finalement, je suis venue au Japon, puis un petit peu une histoire d'amour. J'avais rencontré quelqu'un, puis ça, puis ça n'a pas fonctionné, évidemment, parce que ces affaires-là, ça ne fonctionne jamais. Mais je suis tombée en amour avec le Japon, puis là, j'ai fait comme, ah oui, non, mais le Japon, vraiment cool. Puis finalement, je suis restée ici pendant 2 ans sur un visa vacances-travail.
OK.
Ça a été vraiment super cool, mais... Évidemment, le visa, c'est terminé. J'ai dû retourner, tout ça. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre ailleurs. Puis je suis partie. Puis là, je suis revenue au Québec. Puis j'ai commencé mon bac. Puis là, j'ai fait mon bac. Puis là, j'ai vu qu'à l'université, j'étais à l'Université de Montréal en communication. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire un échange étudiant au Japon. Fait que j'ai venu à Tokyo, à nouveau, finir mon bac en communication, ma 3e année que j'ai faite au Japon. À l'université Waseda. Puis là, je suis revenue, je suis repartie en Asie ailleurs, tout ça. Puis là, je suis revenue au Québec, puis j'ai travaillé, j'ai fait d'autres trucs. Puis éventuellement, je me suis réorientée en criminologie. J'étais en journalisme. Puis là, j'ai fait mal. Le journalisme ne fonctionne pas vraiment pour moi. Je vais aller en criminologie. Puis là, je me suis dit, à 34 ans, j'étais comme bon. Je travaillais, j'étais un petit peu setée dans ma vie, tout ça. Puis là, j'ai fait comme... Je pense que j'ai pas fait le tour du Japon. Tu sais, je veux voir si j'ai encore une possibilité. Puis là, je me suis mis à regarder des trucs, puis j'ai vu qu'il y avait cette bourse-là du gouvernement du Japon. Puis j'ai fait comme... Oh, ben, je vais essayer d'appliquer à ça. Finalement, j'ai appliqué. C'était la dernière année sur laquelle je pouvais appliquer, en fait. Puis j'ai obtenu la bourse. Et wow. Donc, je suis... Oui, ben c'est ça. Je suis revenue il y a... Ben là, ça fait 6 ans, en fait.
Donc, tu n'es jamais repartie, là, depuis il y a 6 ans.
Exactement. Ça fait 6 ans que je suis ici, que je suis toujours sur une bourse du gouvernement du Japon. Je suis très reconnaissante par rapport à ça, mais en même temps, ben, il y a ses hauts et ses bas, là. Tu sais, je veux dire, ils m'ont fait une fleur, mais en même temps, ils ne m'en ont pas fait tant que ça, là, parce qu'eux bénéficient... de ça au niveau de l'économie du Japon. On a des restrictions, on ne peut pas quitter le Japon, on peut partir, mais on doit être ici à tous les mois pour signer. Donc, l'argent qu'ils nous donnent revient à l'économie japonaise, tout ça. Fait que c'est,
ouais.
C'est super cool, mais en même temps, c'est pas tant une fleur que ça.
mais dis-moi, c'est quoi ton occupation en ce moment avec cette bourse-là? Qu'est-ce que ça implique pour toi, là? C'est un travail que tu fais ou tu es en mode études?
En fait, j'ai fait une 2e maîtrise. J'ai une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal et là, j'ai décidé de milk the cow, comme on dit en anglais, de d'étirer un peu la chance que j'avais. Donc, j'ai décidé de refaire une 2e maîtrise que j'ai faite en relations internationales à l'Université Waseda, qui est une des universités les plus prestigieuses au Japon. Si on demande aux Japonais, ils sont toujours « Wow, Waseda », tout ça. Donc, j'ai fait ma 2e maîtrise et en ce moment, je fais mon doctorat à la International Christian University, qui est aussi une des très bonnes universités au Japon. Donc, je fais mon doc dans un domaine qui n'est pas très commun au Japon, en fait, parce que je suis en psycho. Puis la psychologie, c'est vraiment pas un domaine qui est exploré vraiment au Japon. Donc, mais je travaille avec les réfugiés. Donc, c'est ça. Je fais un doctorat en psychologie avec les réfugiés dans les pays en voie de développement, principalement l'Inde et le Brésil.
Wow, vraiment intéressant. J'adore ton parcours. Puis dis-moi donc, à travers tout ça, là, j'imagine que je me trompe peut-être, mais j'imagine que tu parles japonais.
Oui.
OK. Puis ça arrive quand dans toute l'histoire? Est-ce que ça fait longtemps ou est-ce que ça s'est fait dans les 6 dernières années?
Non, ça s'est fait il y a 20 ans, en fait. J'ai habité avec une famille japonaise. T'sais, on était à l'époque, il y a 20 ans, on s'entend qu'il n'y avait pas vraiment de smartphone ou il n'y avait pas vraiment de truc que tu peux apprendre rapidement sur un truc. Fait que tu devais... c'était de l'immersion, en fait.
Ouais,
c'est ça. J'ai appris avec une famille qui ne parlait ni anglais ni français. J'avais rencontré ce gars-là. C'est vraiment bizarre, mais j'ai rencontré ce gars-là. J'avais une amie japonaise que j'avais rencontrée à San Francisco quand j'avais fait un trip de Montréal à San Francisco, un peu débile, là, en tout cas. Puis elle m'a dit, ah oh, oui, tu peux parler à des gens sur ce truc-là. Tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, je vais parler à des gens. Puis là, finalement, ce gars-là m'a dit, ben, tu sais quoi, ma mère a toujours rêvé d'avoir une homestay, a toujours voulu avoir quelqu'un de l'étranger habiter chez nous pour échanger la langue, tout ça. Puis elle parlait pas du tout anglais ni français. Fait que moi, quand je suis arrivée chez eux, ben c'était avec mon dictionnaire, là. À tous les jours, on communiquait, moi j'ouvrais mon dictionnaire, on parlait tout ça. Fait que ça m'a pris à peu près 6 mois pour me mettre dans le beat, pour être capable de parler. Puis je parle de ça à mes amis aujourd'hui, puis ils me disent, wow, t'as appris le japonais en 6 mois. Ben c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Non, c'est ça, on ne peut plus fonctionner comme ça. Mais c'est génial. Moi, je trouve que l'immersion, ben, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue parce que tu ne donnes plus le choix. Ton cerveau, il cherche à communiquer.
Oui, non, tu as tout à fait. Non, tu as vraiment raison. Parce que autrement, tu sais, si tu as des gens qui parlent moindrement anglais, ben ton cerveau switch puis tu vas parler anglais. Mais là, si tu es dans une situation comme. Ben, j'ai faim. Tu sais, j'ai faim. Je
Ouais,
veux te
faut que tu
demander
manges.
quelque chose à manger. Tu prends ton dictionnaire, tu es comme, OK, comment je dis ça? Puis comment je le dis de manière polie? Fait que, tu sais, ça a été une espèce de back and forth continu, puis tout ça. Puis finalement, un jour, je me suis réveillée. Puis je pense que c'est comme ça avec toutes les langues. Tu sais, un matin, tu te réveilles, puis là, soudainement, tu parles la langue, puis tu es comme, ah,
Ouais.
je comprends ce qu'on me dit, tu sais.
Ouais, et puis après, la prochaine chose que tu te rends compte, c'est que tu as même rêvé dans l'autre langue, là.
Non, non, c'est vraiment bizarre.
Ah, j'adore ça. Mais pendant qu'on parle de ça, justement, parle-nous donc un petit peu du Japon, tu sais, la culture, tout ça, là, si on met en contraste avec le Québec pour des gens du Québec là, qui pourraient flirter avec l'idée de vivre au Japon et tout ça, là, comment tu nous décrirais les différences culturelles au Japon par rapport au Québec?
Hey, je pense que, tu sais, je me rappellerai toujours, j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai pris un cours de japonais, puis j'avais Kanaya Sensei. Fait que s'il y a des gens qui écoutent ton podcast, puis qui ont pris des cours de japonais à l'Université de Montréal, ils connaissent tout Kanaya Sensei, qui est un maître de la langue japonaise, mais aussi c'est un homme qui écrit des trucs au niveau de la grammaire japonaise, tout ça. Mais. J'avais vu un reportage. En fait, il était apparu à Kanpai. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission-là avec Mitsu.
Non. Ben, on dirait que ça commence à me dire quelque chose, mais je t'écoute.
Mais Mitsu avait eu un show de télé. Là, je m'excuse, je dis plein d'anglicisme. Je suis vraiment désolée, mais mon cerveau, il marche. Fait qu'elle avait eu un show de télé avec un médecin qui était, oui, dans les trucs un peu oriental, tout ça. Puis il y avait eu un invité, puis c'était mon prof de japonais à l'Université de Montréal, puis il avait dit une affaire, puis moi, ça faisait des années que je disais ça aux gens au Québec. Je disais, ah, vous savez quoi? Le Japon, là, c'est tellement semblable au Québec. T'sais, la mentalité est tellement similaire. Puis là, les gens me disaient, mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis? T'sais, le Québec, les Japonais, ça n'a rien à voir avec ça. Puis là, je disais, non, 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 ça a vraiment très des trucs en commun. Puis là, lui, il dit, il arrive à l'émission, puis il dit, ouais, les Québécois et les Japonais sont très similaires. Mais sais-tu pourquoi ils sont similaires? C'est parce qu'on a une mentalité insulaire. Du fait que nous, on a cette espèce de petit cocon francophone dans une mer d'anglophones. On est très protectionniste. On est on est ouvert, mais en même temps, on est très fermé. T'sais, je pense qu'au Québec, la différence avec les Japonais, c'est qu'on a une espèce d'ouverture, puis on est très chaleureux, puis ça, puis on. Mais en même temps, on a cette similarité-là dans le sens que on évite les conflits. On parle jamais de trucs très intenses. Les Québécois vont pas parler trop politique, ils vont pas parler trop religion, ils vont pas parler d'argent, ils vont pas parler d'affaires qui peuvent déranger, tout ça. Et les Japonais sont très similaires dans ce sens-là, mais je pense que ce qui nous différencie beaucoup des Japonais, c'est que on a un côté latin. Tu sais, veut, veut pas, on a vraiment un côté latin. On est des gens très. Je pense qu'on est très amoureux, on est très émotif, on cherche. Je sais pas comment dire ça, mais On cherche la profondeur, même si c'est pas facile. Ça, on se ressemble avec les Japonais dans le sens que c'est pas facile de gagner notre attention, mais je pense qu'un coup que quelqu'un démontre de l'honnêteté et de la sincérité, je pense que les Québécois sont très ouverts à ça, mais les Japonais, ça prend plus de temps que les Québécois. C'est vraiment difficile de faire des vrais amis au Japon, là. Tu sais, comme honnêtement, là, d'avoir des vrais amis ici, là.
Oui, de percer ce genre de bulle-là, puis de t'intégrer à 100% là, dans leur bulle.
C'est très difficile, même si tu parles la langue. Même si tu parles la langue. Et au contraire, je pense que le fait de parler la langue, tu sais, moi, tu sais, ça fait 20 ans que je suis in and off du Japon. Puis encore aujourd'hui, on me félicite sur ma capacité de manier des baguettes, là, tu sais.
OK. Comme, parce que t'es pas vraiment, vraiment une vraie.
Non, mais c'est ça, mais je suis comme, ben, ça fait depuis que j'ai 3 ans que je vais au restaurant vietnamien à Granby puis que je mange avec des baguettes, mais non, là, ils sont comme, oh, wow, bravo, tu es capable de manger avec des baguettes. Oui, effectivement, je suis capable. Puis là, si tu veux, tu as envie de leur dire, ben, tu es capable de manger avec une fourchette. Tu sais, il y a un peu de ça, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de. Ben, d'appréhension, puis de malaise, tout ça, mais le Japon est en pleine transformation. Je pense qu'honnêtement, on doit être très honnête par rapport à ça, c'est que le Japon est en pleine transformation. Ils ont une histoire, ils ont un passé de tentative de colonisation, ils ont un historique de bombes nucléaires, ils ont une victimisation, mais en même temps, c'est quand même un pays qui a un passé impérialistique aussi. Faut pas négliger cet aspect-là, dans le sens que les Japonais sont très chauvins, sont très fiers de leur peuple. Il y a beaucoup de discrimination qui se fait au Japon. T'sais, moi, je dis aux gens, moi, je suis guide. Je fais mon doctorat, mais en même temps, je suis aussi guide pour une agence au Québec, puis je guide pour des Français aussi. Puis c'est hyper important.
Au Japon.
Oui, oui, oui.
OK.
C'est hyper important pour moi de dire aux gens comme. Je pense que le Japon a fait un très bon travail dans le sens de promouvoir cette espèce de Japon-là hyper chaleureux, hyper respectueux, hyper poli. Et c'est une façade. Il faut comprendre que c'est une façade. Mm-hmm. Les Japonais sont très contents de vous avoir comme touriste. Ils vont vous accueillir à bras ouverts comme touriste. Mais dès qu'on dépasse comme tu sais, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un puis qui t'invite chez eux, puis là, il est comme, OK, tu peux passer la fin de semaine, mais là, tu es rendu à mercredi. Il t'a invité pour la fin de semaine, mais toi, tu es rendu à mercredi.
Ouais.
Il va peut-être pas te le dire en pleine face comme, hé, tabarouette, ben là, mercredi, c'est temps que tu dégages. Il va peut-être pas te le dire en pleine face, mais je pense bien qu'il va te le faire sentir.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est ça, le Japon.
OK, d'accord. Donc, c'est ça. Il y a cette façade-là, mais il y a quand même, le certain caractère derrière celle-ci qui est autre chose. Là.
Ben, ils ne veulent pas qu'on reste ici à long terme. C'est ça, l'affaire. Ils veulent profiter de nos connaissances, de nos affaires. Puis, il y a beaucoup, tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Tu sais, Japon, chaque année, tu sais, regarde, au Canada, on reçoit comment de réfugiés? On reçoit 40 000, 50 000 réfugiés par année. Le Japon, pour un pays de 127 millions de personnes, qui est comme... Attends un peu, mettons que je ne suis pas bonne en maths, là, mais 3,5 fois le Canada ou une affaire dans le genre, bien, eux, ils en soivent 30 par année.
OK, OK. Ah, je ne connaissais pas ces stats-là. Puis, est-ce que tu as l'impression qu'on te montre un petit peu la porte à travers, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es là-bas. Est-ce que tu commences à sentir ce genre de coudon?
Je vais te donner l'exemple de la COVID, là. Je vais donner l'exemple concret dans laquelle on est en ce moment.
Ouais.
Quand ça s'est arrivé, quand le truc est arrivé, OK, la planète a comme un peu... Youp, on suspend dans les airs, on est comme un peu incertain, tout ça. Mais le Japon, ce qu'ils ont fait à partir d'avril 2020 jusqu'à septembre 2020, si on n'était pas citoyen japonais, citoyen, là, tu sais, je veux dire, tu as ton passeport Japon. Je ne te parle pas des gens qui sont résidents permanents, je ne te parle pas des gens qui ont des visas, qui, tout ça, qui leur permettent d'être au Japon. Tous ces gens-là, on s'est fait dire, tu quittes le Japon, tu n'es pas capable de revenir.
OK.
On s'est fait fermer la porte carrément, là. Fait que là, moi, en ce moment, c'est ça qu'un peu que j'ai mis sur mon Facebook aujourd'hui, en fait, c'est que mon meilleur ami qui vient de la Géorgie, qui est un pays de l'Europe de l'Est, son papa est en ce moment sur ventilateur. Il a attrapé la COVID il y a 2 semaines. Puis, tu peux t'imaginer, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que tu fais? Ton père est malade et il va peut-être mourir. Il s'est fait dire qu'il y a 10 % de ses poumons, de la capacité pulmonaire, tout ça. Lui, il veut retourner chez eux. Mais ce que le Japon lui dit, c'est que tu retournes chez vous. OK. Mais c'est pas garanti qu'on te reçoit quand tu vas revenir, même si tu as un visa, même si tu as le droit de revenir ici parce que tu as un appartement, tu payes des taxes, tu travailles, tu vas à l'université, tu as une bourse du gouvernement, tout ça. Mais nous, ça n'a pas d'importance pour nous.
C'est fermé. Donc, toi, il a fallu que tu prennes la décision de rester au Japon, chez toi, pendant cette période de temps-là, sans possibilité, parce que tu n'aurais pas pu revenir.
Non, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis ça l'a encore. Puis je suis particulièrement émotive ces temps-ci, justement par rapport au fait que mon père est cardiaque, puis tout ça. Puis que j'aurais voulu, ça fait presque 2 ans que je n'ai pas vu ma famille, puis j'aurais voulu retourner chez nous. Mais je sais que si je retourne, peut-être que je ne pourrais pas revenir ici. Fait que c'est comme une espèce de dilemme entre. Ben oui, j'aime ma famille, je veux retourner auprès de ma famille, mais en même temps, tu sais, je suis un adulte, j'ai 40 ans, tu sais, c'est ma vie ici, c'est mes, tu sais, je fais mes trucs, j'ai tous mes prospects d'avenir, tout ça, mais si je quitte, je pourrais peut-être pas revenir, tu sais.
Puis en Parce même que temps, cette mesure-là est en place encore en ce moment-là.
Non, mais ils ont slacké les mesures, si je peux dire. Ils ont slacké les mesures à partir d'octobre l'an dernier. Mais en même temps, moi, j'ai des amis, par exemple, j'ai des amis qui sont ici sur un visa de travail et ils ont leur famille. Tu sais, j'ai un ami qui a eu son bébé. Il est venu au Japon en juillet dernier. Puis sa famille était en Inde. Puis sa femme, ben ils ont décidé qu'elle allait attendre un peu. Puis sa femme, elle a accouché en septembre. Puis là, ils se sont dit, ben oui, éventuellement, ma femme va pouvoir venir. Mais là, on est rendu au mois d'avril. Il n'a pas vu son bébé encore.
Wow!
Parce que sa femme n'est pas permise de venir au Japon. Puis lui, il sait que s'il s'en retourne, peut-être qu'il ne sera pas permis de revenir. Puis c'est son travail qu'il va perdre. Parce qu'on lui dit, ben si tu retournes en Inde, ben nous, on ne peut pas garder ton emploi là, en ce moment. Là. Il n'a pas vu son bébé, ça fait. Ouais, ça va faire presque un an en septembre. Là.
Mais je vois qu'à travers plusieurs pays, bon, le Japon, c'est une situation, puis là, il y a différentes règles, différentes situations, tout ça, mais je vois qu'à travers différents pays, plusieurs experts en ce moment sont, entre guillemets, forcés à prendre des décisions qu'ils ne prendraient pas normalement liées à leur expatriation, justement, puis liées, veut pas, tu sais, je pense qu'un des grands défis de l'expatriation, c'est d'être loin de nos proches, alors que normalement, on est à quelques heures d'avion, tu sais, dans le pire des cas. Puis là, tout à coup, ça signifie soit changer ta vie au complet, soit être dans des quarantaines, des trucs de 14 jours, puis des tests, puis des
frais incroyables. Puis des frais, ouais, c'est ça.
Ça fait que là, ça signifie tellement de choses qu'il y a des décisions qui se prennent à cause de ces raisons-là qui n'existaient pas il y a un an et demi. On pensait pas à ces choses-là. Donc là, c'est comme une nouvelle réalité qui, j'espère, va se dissiper peu à peu. J'espère fortement, mais c'est ça que je constate de plus en plus, là, des décisions de rentrer pour toutes sortes de raisons autres que, disons, que notre cœur. Des raisons qui sont réfléchie, intelligente, peser le pour et le contre. C'est ça. C'est-à-dire le cœur. Des fois, c'est pour le cœur, justement, qu'on rentre là, pour nos proches. Mais en même temps, c'est qu'on laisse aller une vie qu'on aime bien. Puis ça, c'est ça. C'est épouvantable là, de devoir faire des choix aussi déchirants en ce moment. Puis justement, parlant de tes proches aussi, comment eux, ils vivent ça, pas nécessairement en ce moment, là, mais même au départ, quand ils ont vu que la petite Géraldine n'est pas partie pour revenir demain matin, là. Comment ça s'est passé, ça? Comment ça s'est vécu à la maison?
Moi, ça a tout le temps... Ben, tu sais, je sais pas, ça dépend des gens, mais moi, je viens d'une famille de 2 enfants. J'ai une sœur aînée.
Mm-hmm.
Donc, la sœur aînée, c'est le... comment je pourrais dire? C'est elle qui a tenu le flambeau, là. C'est l'avocat de la famille, c'est celle qui prend les décisions. Tu m'as dit que tu étais avocate aussi. Je ne sais pas si
je sais pas si t'es. Je ne suis pas la première, non.
Je ne suis pas la première.
Non.
Mais moi, ma soeur, elle a pris, tu sais, je veux dire, je viens. Je pense, pour être honnête, tu sais, je veux dire, je pense que. Puis je pense que tes auditeurs, tes auditrices, c'est probablement des gens, tu sais. Je pense qu'il faut être honnête dans le sens que c'est pas nécessairement accessible à tout le monde, le genre de vie qu'on mène. Je pense que tu dois avoir un certain background, tu dois avoir un certain truc. Puis moi, du côté de ma famille, ça a été ma sœur qui a fait en sorte que dit « Moi, je vais prendre en charge la famille. » Tu sais, je veux dire, elle a fait comme... Mes parents n'ont jamais rien demandé. Moi, je viens d'une famille... Je suis vraiment privilégiée dans ce sens-là, c'est que particulièrement ma mère a jamais, depuis que je suis petite, ma mère m'a dit « Fais ce que tu veux pour être heureuse dans la vie. » Mon père aussi a dit ça, mais en même temps, je pense que les papas québécois dans soixantaine, ils ont beau dire « Ben, fais ce que tu veux pour être heureuse dans la vie. » Ils ont quand même leur aspiration, tu sais. Et moi, ma soeur, c'est celle qui a fait comme « Moi, je m'en vais en droit, puis mon père, c'est un businessman, puis c'est un... » une architecte, fait qu'elle a fait comme je vais prendre la business, tout ça. Fait qu'elle, elle m'a enlevé un petit peu le poids sur les épaules, puis moi, j'ai fait comme hein, moi, je suis la rebelle, je suis le mouton noir, puis je vais, tu sais, prendre ça en charge. Mais je me suis fait reprocher. C'était drôle que tu me poses la question parce que mes parents m'ont jamais rien dit. Pour eux autres, ça a été comme ben, la seule fois qu'ils ont mis les breaks, c'est quand j'ai dit. Ben, moi, je pense que je m'en vais en Afghanistan parce que je vais être photojournaliste de guerre, tu sais.
Ah.
Là, mes parents, ils ont fait comme, hey, là, je pense que Géraldine, t'exagères, tu sais. Là, ça a été comme, tu pousses un peu fort, là. Là, j'ai fait comme, mais c'est tu sais, genre. Mais non, à part ça, mes parents, ils ont fait, OK, parce que ma soeur, elle, comblait cette espèce de truc-là de famille. Je vais prendre soin de la business, tout ça. Fait que mes parents ont dit, OK, tu peux y aller en autant que tu ne te mets pas en danger. T'sais. Fait que ça n'a jamais été tant un problème chez nous. Non, mes parents ont toujours été très, très encourageants. Ils n'ont jamais rien dit. Ça a pris des années avant que mon père vienne en Asie. En fait, la première fois qu'il est venu, ça fait 2 ans. Puis pourtant, ça fait presque 20 ans que je passe la plupart de mon temps en Asie, tu sais. Ça a été vraiment quelque chose de gros pour moi quand mon père a dit « OK, je vais faire un effort, puis je vais aller voir qu'est-ce qui t'intéresse autant en Asie, tu sais. »
Wow! Puis comment il a trouvé ça?
Il tombe en amour, voyons. Il tombe en amour, puis il a fait comme, oh, je veux retourner, puis là, en même
c'est
temps.
C'est ça, on devrait venir plus souvent.
Oui, puis là, c'est les discussions de, oh, je veux acheter, ou qu'on achète, ou qu'on se bâtit quelque chose, puis nanana, puis je suis comme, ben, relax.
Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Fait que, je vois qu'ils ont quand même une. Ils ont bien accepté peut-être ta marginalité ou ton envie de vivre des expériences qui étaient différentes du chemin qui est généralement tracé.
Mais je pense que
c'est super.
Mais ça, je pense que ça vient du fait de, tu sais, je pense qu'il y a plus de gens qui sont ouverts qu'on pense, puis je pense que ça vient aussi de leur background. Tu sais, moi, ma mère, c'est la dernière fille d'une famille de 14.
Wow! Okay.
Mon père, c'est l'aîné d'une famille de 4, mais en même temps qui s'est jamais vraiment fait respecter dans sa famille, qui a toujours été comme un peu à l'encontre de tous les standards de la famille. Puis même s'il est très traditionnel, conservateur, un petit peu fermé, tout ça, il a quand même fait ses trucs. Fait que, tu sais, pour lui, que ses enfants aillent ailleurs puis qu'ils découvrent tout ça, je pense que les parents ont peut-être... Je pense qu'ils sèment la graine, tu sais, ils sèment le petit truc en nous qui font comme moi, j'ai pas pu, mais j'espère que tu feras, tu sais.
Ouais. Oh, oui, tout à fait. Puis si on retourne, on est au Japon, est-ce que tu te sens chez toi? Où est-ce que tu es chez toi, toi, aujourd'hui?
Je suis clairement pas chez moi au Québec, par exemple. Ça, je vais te dire une affaire, puis je pense que. C'est vraiment important pour moi de transmettre ça. C'est que je pense que malgré le fait que je guide des Québécois, puis ça, ça m'a un petit peu aidé, tu sais, de guider des Québécois au Japon. Bien, une certaine génération, en fait, de gens que j'aurais pensé qu'ils étaient un petit peu plus fermés. Tu sais, je guide beaucoup de Québécois dans la 60aine, 70 ans, tout ça. Puis ils me disent tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais au Japon? Tu devrais tellement venir au Québec, tu pourrais tellement amener au Québec, puis tout ça. Mais moi, ce que je me suis rendu compte avec les gens de ma génération, puis que je trouve très dommage, c'est que je sais pas ton expérience, puis je sais pas l'expérience des autres expatriés, des gens qui retournent au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'envie, tu sais. Il y a beaucoup d'incompréhension à la base. Pourquoi aller ailleurs? D'un. Puis, quand tu reviens au Québec, c'est comme tu te penses spécial parce que tu as vu d'autres choses. T'sais, moi, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à retourner au Québec. Pas parce que j'aime pas le Québec, pas parce que j'aime pas les Québécois, mais je me sens bien au Japon parce que on m'accepte dans ma différence. T'sais, pour moi, c'est clair ici que je serai jamais japonaise. T'sais. Mais ouais. Quand je suis au Québec, on me dit toujours, ben, t'es pas suffisamment québécoise, t'es trop différente, t'as trop d'expérience d'ailleurs, t'es pas. T'sais, tu fites pas vraiment dans le moule. T'sais, je pense que le Québec, c'est plus. C'est pas tant que je suis bien au Japon, c'est que je suis mal au Québec, en fait.
Ouais, je comprends. Ben, c'est aussi le. C'est ça, t'sais, on en parlait un peu avant l'enregistrement, mais c'est la difficulté. En fait, du retour, la réintégration dans ces... Ça se fait, mais il y a vraiment un gros défi autour de ça. Puis il faut comme... Mon sentiment, c'est qu'il faut accepter justement de rentrer dans ce moule-là pour bien vivre là. Puis la plupart d'entre nous, le problème, c'est que souvent, on n'a pas envie de rentrer dans le moule. Donc, c'est ça qui crée la plus grande. Hein?
Tu as tout à fait raison. Non, mais tu as tout à fait raison parce qu'on vient qu'on sent. Ben, on sent pas nécessairement inadéquat, mais je pense que beaucoup de gens. Moi mon expérience, c'était. Je vais te donner un exemple. T'sais, quand je suis retournée au Québec la première fois après plusieurs années en Asie, tout ça, il y a 10 ans, quand je suis retournée au Québec, j'allais dans des parties, je rencontrais des gens, puis. Dans des milieux un petit peu, tu sais, aisés, un petit peu, tu sais, hipster, tout ça. Puis là, les gens me parlaient, puis ils se mettaient à me parler d'un truc qu'ils avaient vu à la télé. Puis là, je disais, ah, oh, mais je connais pas, tu sais, genre, pouvez-vous m'en parler? Puis là, ils me regardaient, puis ils étaient comme, ben, tu connais pas, ben, t'es québécoise, qu'est-ce que tu connais pas, ce truc-là? J'étais comme, ben, ça fait plusieurs années que je suis en Asie, tout ça. Puis là, soudainement, c'était comme, « Ah, madame, ça fait plusieurs années qu'elle est en Asie. Ah bon? » Tu sais, c'était, soudainement, c'était comme si je venais de lancer une bombe puis que je me prenais pour une autre personne. Puis c'était, tu sais, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de ça au Québec. Je pense qu'on mériterait à, tu sais, je pense que les Québécois sont très ouverts aux autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture aux gens qui viennent d'ailleurs puis qui ont un bagage à apporter. Mais quand c'est des noms qui vont ailleurs puis qui reviennent avec un certain bagage, c'est comme, ah ben là, soudainement, on se prend pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas de la prétention, c'est juste que c'est notre expérience de vie, puis
on veut partager l'expérience de vie qu'on a, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent peut-être pas ce genre de vie-là, t'sais. Mais en même temps, je suis sûre que toi, Dominique, et bien d'autres gens qui nous écoutent ou qui sont d'autres expatriés vont dire, ben, pour moi, c'est naturel d'aller ailleurs, c'est naturel d'aller vers les autres parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui m'intéresse, tout ça, mais je prétends pas être quelqu'un de spécial, tout ça, mais c'est juste que, oui, j'ai un intérêt pour les autres. Mais ouais. En Québec, je pense qu'il y a encore des gens que ça dérange. Il y a encore des gens qui sont comme... Il y a une espèce de prétention. Il y a un élitisme. Il y a un élitisme qui est perçu par rapport aux gens qui vont ailleurs, qui découvrent d'autres choses, qui ramènent des trucs.
Mm-hmm. Mais aussi, tu sais, j'ajouterais à ça le fait que finalement, tu as passé la moitié de ta vie à l'étranger, tu sais. Puis quand on regarde ça de cette façon-là, t'es clairement pas 100% une Québécoise, pas dans le sens de tes origines, mais dans le sens de ton vécu, tu sais. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il manque des choses du Québec parce que tu es allé t'imprégner de d'autres choses pendant ce temps-là. Puis à un moment donné, on peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, c'est sûr que tu es comme un étranger, une étrangère en même temps que tu es dans tes souliers. Puis, tu sais, pourtant, je veux dire, la façade, c'est une Québécoise. Mais le contenu, c'est beaucoup de mélange de toutes sortes d'expériences. Puis, tu sais, ça, c'est bizarre là, dans le contact avec les gens.
Oui, puis en plus, tu m'as demandé, je me rappelle que tu m'as posé une des premières questions que tu m'as posées. Tu m'as dit, ah, Géraldine, c'est pas un nom québécois commun.
Oui.
Puis, tu m'as demandé, c'est quoi tes origines, de ta famille, tu sais, tout ça. Puis, en fait, moi, c'est ça, j'ai grandi un peu dans ça, en fait. Parce que non seulement mon nom n'est pas à connotation québécoise, en plus, mon nom de famille n'est pas commun. Jourdain, c'est pas commun au Québec. On est très peu de Jourdain au Québec, puis de Géraldine encore moins. Et en plus, j'ai pas un visage typique québécoise. Fait que moi, j'ai grandi dans un milieu. Non seulement je venais d'un milieu privilégié, j'étais d'une famille assez fortunée, privilégiée. C'est pas, je m'en vante pas, là, ça n'a pas rapport. Mais j'étais dans un milieu privilégié. Mais j'allais à une école qui était, j'étais un peu dans un, Grimby, c'est un petit peu intéressant comme milieu, c'est que j'étais dans une école où ils ont décidé de mélanger des gens qui voulaient super privilégiés avec les gens les moins fortunés de la ville, tu sais. Fait qu'on s'est ramassés dans une école ensemble. Moi, toute mon enfance, tu sais, on était quelques-uns de ce milieu privilégié-là. En plus, j'avais mon nom. En plus, j'avais ma face. Moi, depuis que je suis petite, je me suis tout le temps fait dire, retourne dans ton pays.
Hey boy. OK.
Depuis que je suis petite, depuis que je suis enfant, du plus loin que je me souvienne, à la maternelle, on me disait, retourne chez vous, t'es pas dans ton pays. Et moi, j'ai des racines autochtones qui sont peut-être plus apparentes que d'autres parce que, ben oui, je suis brune, puis toute ma famille, on a les cheveux noirs, puis on a des traits un petit peu différents. Puis je me suis tout le temps fait dire, retourne dans ton pays, puis je me suis tout le temps fait niaiser, tout ça. Fait que toute mon enfance, j'ai vécu dans ça. Puis quand j'étais adolescente, puis que je me faisais rejeter à cause de ça, bien, un moment donné, ben, quand j'ai décidé que j'allais aller en voyage, puis là, je suis venue en Asie, puis là, finalement, on me disait, oui, t'es différente, mais on te trouve belle, on te trouve intéressante, on te trouve charmante, tout ça, bien, c'est pour ça que moi, je suis tombée en amour avec l'Asie, tu sais, parce qu'on me disait, oui, t'es différente, mais en même temps, on accepte la différence qu'on n'avait jamais acceptée chez nous, tu sais.
Oui, puis peut-être parce que, là, écoute, je ne sais pas, là, j'extrapole, mais peut-être parce que, justement, tu étais québécoise, mais qu'ils ne voyaient pas complètement. Alors que quand tu étais à l'étranger, par exemple au Japon, tu n'es pas japonaise.
Exactement.
Donc, ça crée un peu ça, tu sais, dans le sens que si tu prends, par exemple, une japonaise puis tu l'envoies au Québec, elle ne serait peut-être pas reçue de la même façon. Parce qu'on ne s'attend pas d'elle à ce qu'elle soit vraiment québécoise. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme...
Non, non, tu as tout à fait raison, mais c'est exactement ça qui m'a attirée vers l'Asie. Puis c'est pour ça que je suis tombée en amour avec le Japon. Au début, je t'avouerais que les deux premières années, ben, surtout quand tu as 19-20 ans, tu sais, tu veux te fondre, tu veux une identité, tu veux
ouais.
ça. Puis j'essayais tant bien que mal de devenir japonaise. Oui, évidemment, je me suis rendu compte que ben non, je ne suis jamais japonaise, ils ne vont jamais m'accepter. Mais une année, je me suis rendu compte que ben, ça a ses avantages. Ils ne m'acceptent pas. Mais en même temps, tu sais, c'est pas chez nous. Fait qu'ils ont tout à fait raison de me dire, ben non, tu viens pas de chez nous. Mais en même temps, je me disais, ben quand je suis chez nous, je me fais dire que je suis pas de chez nous. C'est alors que je suis chez nous. Tu sais. Fait que pour moi, c'était plus confortable. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mon histoire d'expatriation, en fait, qui a vraiment à voir avec le fait que, au Québec, je me suis jamais sentie chez nous parce qu'on m'a jamais vraiment acceptée alors que, toute ma famille est québécoise, puis toutes mes origines sont québécoises. Oui, oui, j'ai des autochtones des deux côtés de la famille, puis j'ai des cheveux foncés, puis j'ai des traits autochtones, tout ça, mais en même temps, c'est quoi mes liens? C'est pas plus nécessairement que les liens que toi ou que d'autres ont avec leurs origines autochtones que vous avez sans doute dans vos familles, tout ça, mais parce que je paraissais autochtone, que là, on me disait clairement, t'es pas d'ici, va-t'en chez vous, puis toutes ces affaires-là, ça m'a vraiment fait sentir que j'appartenais à rien, tu sais. Là, en venant ouais. en Asie, puis là, de me faire dire, ben oui, t'es clairement différente, mais là, en même temps, ok, c'est correct, j'accepte le fait que je suis différente, fait que je vis bien avec cette différence-là, puis pour ça que je suis en Asie encore aujourd'hui, parce que j'accepte qu'on me dise, oui, t'es différente, oui, tu fais pas partie de notre groupe, mais je l'accepte moins bien chez nous, en fait. C'est ça qui me dérange de retourner au Québec. C'est de me faire dire, ben tu fais pas vraiment partie de chez nous.
Donc, si on parle là, en troisième partie, dans la partie du podcast, du retour éventuel ou pas de l'expat, dans ton cas, est-ce que je comprends que, en tout cas pour le moment, ça fait pas du tout partie des plans?
Jamais. Jamais je vais revenir au Québec. La seule okay. raison pour me faire revenir au Québec, c'est... ma famille, j'ai une terre, on a une maison, on a une terre. J'ai une nièce, j'ai un neveu que j'aime plus que tout au monde. J'ai pas d'enfants encore, mais ces enfants-là sont comme les miens. Je vais toujours revenir quand ils vont avoir besoin de moi, mais sinon, j'ai aucun intérêt de revenir au Québec. Jamais.
Puis est-ce que tu penses que tu vas rester au Japon ou est-ce que c'est n'importe où sauf au Québec?
Je pense que mon objectif ultime, c'est de vivre aux États-Unis. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais je pense que les États-Unis, malgré tous les problèmes qu'ils ont, évidemment, en étant blanche, on a quand même un certain confort qu'on peut aspirer à. Mais je pense que, de mon expérience, j'ai vécu à New York pendant presque un an avec mon ex-copain, puis j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, et je me suis toujours sentie comme si on me laissait ma chance d'être, tu sais, sans trop me poser de questions par rapport à qui tu es, où tu veux aller, ou d'où tu viens, tu sais. Travaille, fais ta place, démontre-nous ce que tu peux faire, puis ça va être suffisant, tu sais. Mais je pense qu'au Québec, non, mais je dis pas que je m'ennuie pas du Québec, tu sais. Je suis toujours reconnaissante quand je reviens au Québec, puis je pense qu'on a parmi les plus beaux paysages au monde, puis je pense qu'on a parmi les plus belles personnes au monde aussi, tu sais. Je voyage au Québec, je prends ma voiture quand je vais voir mes parents, je prends ma voiture, je pars en Beauce. Je regarde les paysages, je trouve ça tellement magnifique. Je m'arrête une petite place, là, je parle aux gens, puis ils sont tellement chaleureux, puis gentils, tout ça. Mais en même temps, travailler pour vivre, pas sûr, honnêtement.
Ouais, c'est une autre histoire. C'est un autre truc complètement. Ben, écoute, merci Géraldine pour cette histoire, pour toute ton histoire. C'était vraiment intéressant. J'aurais des petites questions à te poser, là, les questions à Raphaël de fin de podcast, si tu es prête. Puis, ensuite de ça, on conclura. Est-ce que ça te va?
Oui.
Alors, la première question, c'est est-ce que tu écoutes Netflix? Et si oui, c'est quoi ta meilleure série Netflix à vie?
La meilleure série Netflix à vie? Wow, c'est une grosse école, là.
Remarque, il doit pas, je pense à ça, il ne doit pas y en avoir qui existent de plus de, tu sais, tant d'années, là.
Non, mais c'est niaiseux, mais tu me poses cette question-là. Le seul truc qui me vient en tête, c'est l'espèce de série Netflix française, en fait. Comment ça s'appelait? Je ne sais même pas si vous l'avez aux États-Unis ou si long au Québec, là. C'est une espèce de série. Comment ça s'appelle? C'est l'espèce de... Attends un peu, comment... Ah, je m'excuse, je ne sais pas le nom, mais en tout cas, si je peux te le poster après, puis tu le mettras, là, mais...
une série française.
Une série française que j'ai trouvée intéressante parce que je trouvais que... Ben, tu vois, moi, je trouve que je m'identifie plus souvent. C'est bizarre, mais je m'identifie plus souvent et je me suis toujours plus identifiée à des séries avec des femmes qui viennent d'origines différentes, qui ne fit pas nécessairement dans le moule des origines. Moi, je ne me suis jamais identifiée à un truc profondément québécois. Tu sais, si je regarde une série québécoise, ben non, moi, ça m'appelle pas. Là. Tu sais,
mettons La Petite Vie ou ce genre d'émission-là, là, c'est pas exactement à ça que tu colles.
Ben, c'est pas une série. C'est plate, là, mais tu sais, non, ça vient pas me chercher au niveau de. Non, ça vient pas me chercher.
Tu t'identifies pas à ça.
Mm-mm.
OK. Donc, ensuite de ça, est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
J'écoute Sam Breton. Je trouve Sam Breton bien rigolo.
OK, super. Maintenant, est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Je suis plus du type livre et je lis juste des non-fiction. Je lis jamais de trucs de romans. C'est pas mon type. Je suis très cartésienne et étant donné que je fais mon doctorat, je suis toujours dans les trucs qui sont en lien avec ma recherche, mais je lis beaucoup de trucs criminologues, donc tueurs en série. C'est vraiment okay. Mon genre. Ouais.
Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre là, maintenant, là, pour un an, dans la destination de ton choix, tu irais à quel endroit?
Hawaï.
OK. Yeah. Puis, est-ce que tu penses, mais là, ça revient à notre question du début, là, ou en fait, juste avant qu'on enregistre, mais est-ce que tu penses que l'on est expat ou qu'on le devient?
Ouais, mais là, tu me poses une colle parce que, étant donné que je suis criminologue, tu sais, c'est comme me dire, est-ce qu'on devient criminel ou on est criminel, là, c'est... Non, je pense que c'est un apport des deux, tu sais. Je pense que dans ta personnalité, tu as des inclinations. Tu as des inclinations, mais en même temps, ton environnement fait en sorte que, ouais, si tu n'as jamais personne qui va semer la graine, tu sais, moi, je me rappelle mes premiers trucs de voyage, c'est mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère maternelle, quand j'étais toute petite, il faisait le tour des États-Unis en Volkswagen. Là, ils partaient avec leur caravane, puis ils m'envoyaient des cartes postales. Puis moi, j'étais là, j'attendais toutes les semaines. « Ah, oh, j'ai-tu une carte postale? » Puis j'avais une carte postale de ci, puis j'avais une carte postale de ça. Mais en même temps, je pense que j'avais l'intérêt aussi. T'sais. J'avais pas eu l'intérêt, mais ouais, je pense que c'est plus, tu dois avoir quelqu'un, quelque part, qui te sème cette envie-là de découvrir le monde parce que de toi-même, aujourd'hui, c'est peut-être différent. Mais on a 40 ans. Fait que à notre époque, tu devais avoir quelqu'un qui te met le truc. Aujourd'hui, je pense que par toi-même, tu peux aller sur Internet et dire, oh, wow, je vais explorer ça. Mais quand on était jeune de notre époque, tu devais nécessairement avoir quelqu'un qui t'avait mis un petit peu la puce à l'oreille du fait que ah, il y a d'autres choses en dehors de ton village.
En fait, tu me fais réfléchir, puis je me dis peut-être qu'en fait, on a la graine en nous, mais que ça prend quelqu'un pour l'arroser, mettre de l'engrais, dans le fond. Peut-être, en tout cas, je me dis, c'est peut-être ça, en fait, c'est que c'est ça. On est avec, mais là, s'il n'y a jamais rien pour la réveiller, pour lui donner vie, pour que ça aille plus loin que ça, ben ça ne pourra pas. En tout cas, tu vois, c'est fruit de la réflexion de 58 podcasts qui me qui m'amène à ça. Puis ouais, je trouve ça bien intéressant comme pensée, comme approche.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ben, Géraldine, merci beaucoup de ton temps, de ton récit, de ton histoire, de ta perspective par rapport à l'expatriation. C'était vraiment intéressant. Puis, écoute, moi, je vais continuer à te suivre à travers les réseaux sociaux puisque c'est tout ce qu'on a pour voyager en ce moment aussi. Hein. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Un gros, gros merci.
Mais je veux juste faire une dernière affaire.
Vas-y.
S'il y a jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de venir au Japon, puis que j'ai peut-être un petit peu été un petit peu rough par rapport au Japon, mais non, vous devez essayer de venir au Japon, puis ça va me faire plaisir, je vais toujours être disponible. S'il y a des gens qui ont envie de venir au Japon, puis ça, même comme touriste, malgré le fait que je suis guide de voyage, je parle même pas de ça, là, mais ça va me faire plaisir de donner des informations, puis d'ouvrir des portes, parce que je pense que c'est quand même un pays qui mérite d'être découvert, puis je pense que c'est un endroit qui mérite de creuser un petit peu plus profond que la surface et toutes ces belles choses qu'on veut nous montrer du Japon, puis ça va toujours me faire plaisir d'introduire qui que ce soit qui a envie de découvrir le Japon un peu plus, puis c'est ça.
Ah, merci Géraldine, puis moi je prends des notes de ce que tu viens de dire, mais un gros merci.
Mais merci à toi beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. T'es super gentille, t'es vraiment une bonne personne, puis j'espère qu'on va garder contact.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expatrié du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer expat2-maman. Merci!